3 à 246. Chronique de la Maison de la Mémoire.
Alors aujourd'hui, nous allons intituler la chronique « Contes, légendes et croyances populaires, de l'oral à l'écrit ». Nous allons donc parler d'un sujet dont les livres des rayonnages de la Maison de la Mémoire illustrent bien le propos, les contes, légendes et croyances populaires, qui n'ont de cesse que d'enrichir la connaissance de notre passé et d'expliquer notre présent. Nous pouvons regrouper tout cela autour du terme de « culture populaire », apprécié par le plus grand nombre et que beaucoup opposent à la culture élitiste ou avant-gardiste. Historiquement, la tradition orale a d'abord été une façon de préserver et de transmettre l'histoire, la loi et la littérature, de génération en génération, dans les différentes sociétés qui n'ont pas de système d'écriture ou dans lesquelles l'écriture est réservée à une minorité. C'est l'une des formes principales de l'éducation qui se poursuivra grâce à l'écrit et permettra de perpétuer l'histoire de chacun. On pourrait prendre un exemple, si nous nous arrêtons dans le monde rural, on sait que souvent l'année est rythmée par le calendrier, en particulier le temps des moissons, les grands événements, les foires, les fêtes religieuses et les mariages. Au quotidien, les veillées sont donc le lieu et le moment de transmission d'une culture orale de contes et légendes. Et ensuite, on a l'alphabétisation et les lois Ferry en 1881 qui vont permettre l'accès à tous, ou tout au moins à beaucoup, à la culture écrite. Les contes, légendes, croyances, chansons vont alors pouvoir être mis sur le papier et permettre une meilleure diffusion de la connaissance de chaque milieu ou région. Toutefois, même après l'acquisition de l'écrit par une majorité, la tradition orale sous toutes ses formes reste importante et même essentielle dans la transmission des savoirs, us et coutumes. On note que l'on peut souvent qualifier ces textes de facétieux, permettant le rire ou le jeu, tout en ayant valeur de description sociale. Le rire, à une époque souvent difficile, permettait aussi de bouleverser, pour un temps, l'ordre ou les valeurs sociales. N'oublions pas non plus de rappeler que c'est souvent l'Église et l'histoire religieuse qui ont donné matière à tradition orale. À côté des formes traditionnelles du récit, s'est formé un type de légende religieuse. Et je suis tombée sur une lecture sortie des légendes kersinoises, racontée par tante Basiline. Et là, j'ai trouvé la légende du puits de Padirac, que je n'avais pas encore eu le plaisir de découvrir, et qui sortirait donc d'une de ces légendes d'abord de croyances. Donc la légende du puits de Padirac. Donc ce soir-là, il faisait noir comme de la poix. Saint-Pierre allait sur sa mule, et la mule avait grand peur. Et si Saint-Pierre n'avait pas été un saint, il aurait eu peur aussi. On ne voyait pas le point devant les yeux, et la grande lande n'offrait rien de clair qui pût guider un peu. Pendant le jour, la terre, l'herbe, les roches plates, les bouquets de genévrier, tout cela paraît d'un gris verdâtre, tout se confond en une teinte indécise très douce à l'œil, sous le grand ciel bleu. Cependant, même sous le soleil, ces Barthès sont tristes. Elles deviennent fantastiques au clair de la lune. Les esprits les ont tant habitées, au temps où les esprits de l'autre monde se montraient un peu partout. Mais cette nuit-là, il faisait noir, rien que noir. On ne voyait même pas la robe blanche de Saint-Pierre, qui laissait sa mule aller lentement, car il était tout triste. Il avait couru tout le Cos depuis Figeac, et n'avait pu trouver un seul homme de bien pour l'amener au ciel et montrer au bon Dieu comment sont faits les cossetiers du Quercy. Il faudra pourtant bien que je demande à Saint Amadour. Le bon Saint-Pierre s'aperçut soudain que sa mule ne marchait plus et tremblait sous lui comme une feuille par un grand vent. En même temps, un bruit effroyable qui semblait venir d'en haut lui fit lever la tête et dans la nuit épaisse, il vit. Ah, ce qu'il vit pouvait bien faire trembler sa mule. Notre vieux Guillaume, Dieu voit son âme en paradis, avait fait une maladie pour avoir rencontré, entre le ratier et la maresque, une troupe brillante de cavaliers qui glissaient, qui couraient, il n'aurait pu dire comment, à la cime des blés sans les courber. Il les avait vus comme je vous vois, et il en avait eu si grande frayeur que jamais plus de sa vie il ne sortit seul le soir. Mais s'il avait été là, avec Saint-Pierre, il en serait mort de peur, pauvre homme, et n'en aurait jamais rien dit à personne. C'était bien pis que la chasse volante, dont parle tant la Jeanneton de l'Église. Pis que le drac, qui berna si bien Jean Tout de Marc. C'était le diable lui-même, ni plus ni moins, avec tout le train de l'enfer, qui arrivait droit vers Saint-Pierre. Le saint rassura sa mule de la main, et, se signant, il attendit Lucifer. Celui-ci fit un peu la grimace, mais pour payer de bonne contenance, il s'écria « Hé, Saint-Pierre, n'est-ce pas vous que j'aperçois ? Je vous ai bien perdu de vue, mais nous avons été bons amis autrefois. » « Il n'était pas nécessaire de la prendre à ma mule, » dit le saint. « Je me suis repenti, j'ai expié. »« c'est bon, » fit le mauvais. « Qui garde votre porte tandis que vous prenez l'air dans cette France ? Cela vous intéresse ? Peut-être. Eh bien, vous le saurez quand vous m'aurez dit ce qui remue dans le sac que portent vos démons. »« Té, pardi, ce sont des âmes. Ils nous viennent en si grand nombre, ces cossetiers, que je ne sais plus où les mettre. Aussi, je vais vous les ratatiner, qu'ils ne tiendront guère de place. »« Pécaïre, » dit le saint, « c'est des mandeux ou trois ?» Bah, Inesté, vous n'êtes pas gêné, Saint-Pierre. Vous auriez là de jolis citoyens pour le paradis. En les envoyant un peu en purgatoire, après tout, ils sont à vous, gardez-les. Vous n'avez pas tellement de monde. Et d'où le croyez-vous, s'il vous plaît ? Tenez, voilà un plein sac de cette rafataille. Nous allons les jouer. Voyez comme j'y tiens. Je vous préviens que je n'ai pas d'enjeu. Ça ne fait rien, nous jouons les cossetiers, pas plus. Nous allons faire chacun une saute. Et celui qui les sautera, toutes les deux, aura les cossetiers. Je vous préviens encore que je ne descends pas de ma mule. Bah, je me charge de sauter plus haut qu'elle. Marche est fait, dit Saint-Pierre, et à la grâce de Dieu. Le diable fit une autre grimace, et il frappa du pied. Il frappa si fort que la terre s'enfonça jusque dans ses entrailles. Ce fut le pu de Padirac. Voilà ma saute toute faite, dit-il. Vous sauterez d'un bord à l'autre. Tenez, comme cela. Et tous les diables gambadaient au-dessus de l'abîme comme des plumes qui volent. « C'est bien large et bien profond, » soupira Saint-Pierre. La mule courbait les oreilles. Enfin, elle obéit à la voix de son maître et du haut du préplumé, elle se précipita à fond de train vers le gouffre béant. Quand elle arriva presque au bord, Saint-Pierre s'écria d'une voix forte. « Saute au nom du Père !» Et la mule s'enleva et sauta si bien, si juste que ses quatre pieds vinrent se poser sur la roche à l'autre bord. Elle avait sauté de si grand cœur, la brave mule, que l'un de ses pieds détacha un énorme quartier de pierre qui penche encore sur le puits. Et pour la plus grande gloire de Dieu, ses quatre fers sont restés empreints dans le rocher. Mais l'invocation de Saint-Pierre avait fait Satan reculer d'un bond. Par-delà, Padirac égole. Il heurta si violemment le coucoudier qu'il le fendit en deux. Comme chacun peut aller s'en assurer, les deux montagnes sont toujours là. Saint-Pierre vint le rejoindre. La mule allait l'amble, je vous assure. Ils se rencontrèrent au bord d'une petite fontaine sur laquelle, de deux bâtons, Saint-Pierre fit une croix. « À mon tour de donner l'exemple, » dit-il. Et la mule sauta légèrement par-dessus la croix. « À vous maintenant, » reprit le saint avec un peu d'ironie. Mais le démon avait beau s'élancer, partir de très près, de très loin, c'était tout de même. Arrivé au pied de la croix, il était obligé de s'arrêter. Il hurlait, il rugissait, les démons eux-mêmes tremblaient de l'entendre. Enfin, il s'arrêta, épuisé. « Tiens, portier maudit, les voilà tes cossetiers. » « Une belle prise, je t'en réponds. » Et comme Saint-Pierre attachait le sac sur sa selle. « À propos, » reprit Satan, « tu ne m'as pas dit qu'elle est l'Espavin qui te remplace à la porte du ciel ?»« Paix, » dit Saint-Pierre, « j'ai voulu t'épargner jusqu'ici. Sache que c'est notre Seigneur. » À ce nom, les démons disparurent et nul n'aurait su dire le chemin qu'ils avaient pris. Mais les bergers qui, le lendemain, contemplèrent avec épouvante l'énorme bouche du puits de Padirac, le virent tout rempli d'une épaisse vapeur de soufre. Il n'est donc pas étonnant que les savants qui l'explorent maintenant y trouvent des grottes toutes pleines de choses extraordinaires. S'ils les suivent assez longtemps, ils arriveront au fin fond de la terre. C'est le chemin de l'enfer. Quant à la fontaine que le diable n'avait pas pu sauter, Saint-Pierre l'a bénie. C'est la source de Miers. Après quoi, il reprit tranquillement le chemin de Saint-Jacques et remonta en paradis. Quand les cossetiers eurent refait leur purgatoire, le bon Dieu leur permit de revenir sur la terre, la nuit, pour tirer leurs parents du triste état où le diable les avait mis. Et depuis ce temps-là, vous pouvez m'en croire, il y a autant de braves gens dans l'Écosse du Haut-Quercy que dans n'importe quel pays de braves gens. Voilà une illustration de la légende qui apparemment est donc sortie d'une croyance religieuse. Et si maintenant nous prenons l'exemple très présent en Cévennes des guerres des Camisards, on voit aussi que le tableau est bien différent, que l'on se réfère à la forme du conte traditionnel ou à celle du récit du côté purement religieux. C'est un autre exemple assez frappant, on retrouve beaucoup de contes et légendes en Cévennes. Donc si on veut un petit peu résumer, on peut dire que la tradition orale ou écrite permet avant tout la cohésion, le lien profond du groupe concerné. Ainsi, à chaque région, ses croyances, ses mythes, ses histoires ou chansons. De même que le loup, le renard, l'ours, la sorcière ou la fée, qui chacun trouve sa place dans la réalité d'un paysage ou d'une culture, ne se racontera pas de la même façon, voire n'existera pas. Et là, on va peut-être prendre un autre exemple qui va parler à beaucoup de monde. Et on va prendre l'histoire de la bête du Gévaudan. Donc au départ, la bête du Gévaudan, il y a une histoire qui commence en juin 1764, où deux enfants sont dévorés près de Langogne. En juillet, on parle d'une fille de 14 ans aux Abats. En août, une fille de 15 ans qui est dévorée à Puy-Laurent. Puis les attaques contre les femmes, essentiellement, et les enfants. Et donc, il y a toute l'histoire qui s'explique hein, avec le roi Louis XV, etc. Et de là, s'est construite aussi donc, la légende, à laquelle je vais plutôt m'arrêter. Donc, ça s'appelle « La légende du vivant de la bête ». Et c'est tiré du livre « Les légendes du Gévaudan » de Benjamin Bardi. Les nombreux massacres qui chaque jour s'accumulaient firent une énorme impression. Furent-ils dus à un seul carnassier ou au contraire à des bandes de loups féroces dont le pays était alors infesté? On a toujours pensé dans le pays qu'ils étaient dus à un seul monstre, la bête du Gévaudan. Pour les uns, c'était le produit d'une louve et d'un lévrier. On le disait enragé. Pour d'autres, c'était une hyène échappée d'une ménagerie de la foire de Beaucaire ou encore quelques gros singes. Et cela avec d'autant plus de fondement que quand cet animal passe quelques rivières, il se redresse sur ses deux jambes de derrière et gaille comme une personne pourvu qu'il ne soit pas pressé. Ceux qui prétendaient l'avoir vu disaient « Cet animal est de la taille d'un jeune veau, il a les pattes aussi fortes que celles d'un ours, avec six griffes, chacune de la longueur d'un doigt, la gueule extrêmement large, le poitrail très fort, le corps aussi long que celui d'un léopard, la queue grosse, le poil de la tête noirâtre, les yeux de la grosseur de ceux d'un veau et étincelants, les oreilles droites et courtes comme celles d'un loup, le poil du ventre blanchâtre, celui du corps rouge avec une raie noire, large de quatre doigts, depuis le cou jusqu'à la naissance de la queue. Dans les rapports officiels, il y a une hyène, un léopard, mais toujours un monstre. Ceux qui ne l'avaient point rencontré, comme ceux qui le prétendaient, en firent un animal fantastique. Madame de la Rouvière, veuve d'Abraham Méjean, notait dans son livre de raison. Madame de la Bouvière habitait Bédouès, donc dans une région où la bête ne vint point. Dans le mois de juillet 1764, il apparut dans les montagnes de Langogne une bête sauvage comme un âne qui a mangé plusieurs femmes et enfants, qu'on nomme hyène ou panthère et qu'on ne peut tuer, ayant le poil si épais qu'il rejette la balle. Elle saigne au col les personnes, suce le sang et mange la chair. Et plus loin, heureuse de la nouvelle qu'on vient de lui apprendre quand le marquis d'Apché eut tué cette bête sauvage, elle ajoute « Cette bête dévorait les chrétiens petits et grands, suçait le sang et mangeait la chair. Elle a duré 3 ans et dévoré plus de 100 personnes. On l'a salée et portée au roi Louis XV. Elle avait 2 rangs de dents, un rang comme celle d'un cheval et l'autre comme celle d'un chien, les oreilles petites, les griffes comme des crocs, les yeux comme flammes de feu rouge, grosses comme un gros chien, et la femelle est petite qui hurle et l'appelle dans les déserts. » Des complaintes furent colportées dans tout le pays de France et hors des frontières. Voilà, la légende de la bête du Gévaudan. Et donc, par contre, on sait aussi qu'il y a des personnages qui peuvent être retrouvés, contrairement à certains coins de France ou d'ailleurs, qui ont vraiment des particularités, des personnages qui peuvent être retrouvés partout dans différents pays d'Europe. On prend l'exemple très, très souvent connu et raconté de Joan des Lourdes. Je pense que j'ai fait à petit peu près le tour de ce que je pouvais dire sur les contes et légendes. Je vais maintenant vous donner une liste non exhaustive, bien évidemment, de quelques titres, qu'ils soient écrits en français ou en occitan, et qui ont été piochés au hasard dans nos bibliothèques de la Maison de la Mémoire et qui illustrent bien ces différences. Alors on a par exemple la légende du Pays Vert, d'Henri Pourrat, les récits et les contes populaires des Cévennes, de Jean-Noël et Nicole Palou, les contes et nouvelles d'El Rouergue, par Peyre Bouissou, les légendes quercinoises, dont j'ai lu un morceau, qui sont racontées par Tante Basilire. Les contes de Gascogne, par Jean-François Baladé. Les contes et racontes de province, de Paul Arène. Les légendes du Gévaudan, de Benjamin Bardi. On trouve aussi beaucoup de contes et légendes populaires en Languedoc-Roussillon.
3A 246. Chronique de la Maison de la Mémoire. Avec la participation de toute l'équipe de la Maison de la Mémoire du pays saint-africain. Florian Boulet, Sophie Roumégous, Julien Cossat, Delphine Diez, Stéphane Géniès.